Soleil hier qui retraçait le parcours d'un homme qui, il y a 40 ans, a bouleversé la vie de tout le monde en raison des horreurs qu'il a perpétrées. Malgré tout, qui continue de susciter la fascination aujourd'hui. J'ai nommé l'un des gourous les plus connus et les plus marquants, je devrais dire, de l'histoire du Québec, Rock Thériault, mieux connu sous le nom de Moïse Thériault. Ça fait 40 ans de ça. Mmh. À l'automne 78, c'est là que Rock Thériault prédisait la fin du monde à Radio-Canada. Fin du monde, donc publiquement. Fin du monde qui devait arriver en février 79. Ça n'a pas marché, finalement. Ça a mal été. Mais ça s'est poursuivi jusqu'au milieu des années 80.
Mais c'est là que Bernard de Rome a commencé à dire, hey, si la tendance se maintient, il a pogné ça.
Rock Thériault. Bref, ça nous donne envie de se replonger un peu dans cette histoire-là, parce qu'à mon sens, il reste des affaires qui sont pour moi très confuses là-dedans. Je joins au téléphone le spécialiste des religions et de l'actualité religieuse, Alain Pronkin. Bonjour, M. Pronkin.
Oui, bonjour, Paul Raphaël. Et bonjour, Marc.
Salut.
Monsieur Pronkin, Moïse Thériault prédisait la fin du monde, interprétait la Bible, prétendait être en contact avec le Tout-Puissant. C'est-tu réellement avec ces arguments-là qu'il réussissait à convaincre les gens de se joindre à lui?
Ça, c'est toujours difficile à dire. Ça se peut quelques-uns, mais moi, je penserais pas. Parce qu'on a un témoignage de... Ça, c'est extrêmement triste. Madame Gabrielle Lavallée.
Oui.
Qui, elle, s'est faite couper carrément un bras par Moïse Rock Thériault, puis elle a subi d'autres sévices de sa part. Puis elle, ce qu'elle disait en entrevue, elle disait, écoute, il y avait un charisme, il y avait un magnétisme, il y avait des yeux qui étaient extraordinaires. Et il y a, de ce côté de ce leader-là, ce côté sombre là, de charisme. Et c'est ce qui fait que les gens vont connecter. Bon, Gabrielle Lavallée avait eu une vie difficile avant. Je pense que c'était un enfant qui avait été placé au début de son enfance. Par la suite, elle était devenue infirmière. Elle avait réussi, je ne sais pas si c'était au niveau, je pense au niveau universitaire. Donc, c'est quelqu'un qui avait une solide formation, qui avait une vie un petit peu dissolue par moment et qui le dit carrément. Mais faut pas oublier que Mike Rock Thériault, c'est pas une secte de 3000 personnes là, comme on a déjà vu à Johnstown ou d'autres endroits. C'est un groupe quand même relativement fermé.
Ça part toujours un peu de ça, d'ailleurs, un gourou charismatique.
Oui.
Puis des gens qui forcément doivent être un peu perdus aussi là-dedans. Là. Tu peux pas convaincre n'importe qui d'embarquer dans des folies comme ça.
Mais il y a une chose aussi que tu as dit au début. Il parlait de la fin du monde.
Ouais.
La fin du monde ou la fin de son monde à soi, parce que c'est dans le fond, c'est la mort, c'est quelque chose qui a toujours attiré les gens. Parce que les gens ont... Toute personne va toujours penser à la fin du monde ou la fin de son monde à elle, OK?
Ouais.
Et Roïc Moïse Thériault, il vient de ce milieu-là. Ça veut dire quoi? C'est un millénariste. Okay. C'est quoi un millénariste? C'est des gens qui, à la fin des années 1800, disaient « la fin du monde est proche ». Et lui a fait partie de l'Église adventiste du septième jour qui prévoyait une fin du monde imminente. Donc, c'était enraciné dans lui que la fin du monde s'en venait. Et il va parler à ses adeptes, Gabriel ou d'autres, et il va leur parler de cette fin du monde-là. Et on le voit souvent au niveau de ces leaders charismatiques-là. La fin du monde, la fin de ton monde s'en vient. Il faut se préparer à Dieu, il faut se préparer à ci, il faut se préparer à ça. Et pourquoi aussi il a pris un peu comme le nom de Moïse? Parce que Moïse avait des communications avec Dieu.
OK.
Fait que mets ça ensemble. Fait que lui, là, la personne qui est déjà attirée par le charisme de Moïse Rock Thériault dit, hey, il s'appelle Moïse. Moïse est en relation avec Dieu. Et là, on commence des amalgames. Et cette personne-là va, pour toutes sortes de raisons, dire, ben, écoute, je vais faire partie de ça. Mais toujours pense, là, Paul et Marc aussi, là, que si vous êtes un reject à l'école.
Ouais.
Et qu'un moment donné, il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, t'es quelqu'un de super bien, t'es quelqu'un qui a du potentiel, t'es quelqu'un que si, t'es quelqu'un que ça. » Ben, automatiquement, ça va t'attirer quand t'es toujours rejeté.
Ça vient de là un peu la vulnérabilité des gens, finalement.
Pas juste de là, mais un des nombreux facteurs. Il y en a des centaines de facteurs. Là.
Et puis là, on rentre là-dedans une violence absolument barbare. Selon, d'ailleurs, le témoignage de Gabrielle Lavallée, là, ça rongeait les disciples de peur. Puis c'est en partie pour ça qu'ils restaient auprès de Moïse Thériault.
Oui, puis en plus, lui, il avait fait son groupe. Là. Je pense qu'il y avait juste 2-3 gars, puis il y avait plusieurs femmes. Il y avait des enfants avec ces femmes-là. C'était vraiment de l'exploitation sexuelle, de l'exploitation physique, de l'exploitation du chantage, de la violence. Tout était parti à ça. Écoute, il y en a une qui est décédée, et c'est pour ça que Moïse Rock Thériault a été condamné à prison à vie. Il a décidé de lui faire une opération. au niveau de ses intestins. Je me disais qu'elle est morte de douleur, que c'était abominable. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, on va rappeler qu'en 2011, il s'est fait tuer en prison
par
un autre détenu. Oui, c'est un détenu qui l'a tué en prison. Je me souviens pas trop des circonstances. Je pense que c'était un coup de couteau ou de seringue au niveau de la nuque. Et il est mort.
Mais c'est pas une secte qu'il y avait, lui, c'est une ferme.
Pardon?
C'est pas une secte qu'il y avait, c'est une ferme. Tu sais, il élevait des gens.
C'est littéralement ça. Comme ça. Oui, c'est un petit peu ça, mais c'était aussi, il était réfugié en Gaspésie, dans un territoire illégal. Quand les policiers arrivaient, ben là, ils ont déménagé en Ontario parce que tu avais la protection de la jeunesse qui s'occupait des enfants, parce qu'il y a eu des enfants. Puis aussi abominable que ça puisse paraître, Roch, Moïse, Thériault, il y a des femmes qui l'ont suivi de son groupe une fois qu'il était incarcéré et il y a eu des enfants après durant son incarcération avec ces femmes-là. On peut pas s'imaginer la domination de ce gars-là sur des gens qui, sur ces femmes-là. C'est abominable. Ça se décrit pas. Là.
Et là, ça fait 40 ans de ça, à peu près. Qu'est-ce qui reste? Puis j'ouvre de gros guillemets bien gras, mais qu'est-ce qui reste, entre guillemets, de l'héritage, on va dire, ou du passage de Moïse Thériault?
Les enfants? Il y a des enfants qui sont toujours vivants, qui sont issus de ces unions avec Mme Lavallée ou avec d'autres femmes. Et ces enfants-là, ils sont marqués au fer rouge par ça. Et ça, ça existe à peu près tous les groupements sectaires qu'on peut imaginer. Tu vas me dire, Paul, tu vas dire, regarde, Alain, ils ont choisi de faire partie de ces groupes-là. Oui, les premiers adeptes ont choisi.
Mais pas les enfants.
Mais pas les enfants.
Mais non, c'est
les
ça.
Enfants. Ils sont nés là-dedans. Imagine, t'es né dans un groupe religieux qui te dit tout le long de ta vie, une fois que tu quittes le cercle de notre ferme, on va résoudre le mot ferme, c'est l'enfer, c'est Satan qui t'attend. Et ce qu'il y a à l'extérieur du groupe, c'est des ennemis. Hey, t'es élevé avec ça, conditionné avec ça de ta naissance.
Non, c'est hallucinant.
C'est quand même, c'est l'enfer, là. La direction de la protection de la jeunesse, c'est pas un travail jojo, là, quand ils rentrent dans ces sectes-là. Et des sectes, il y en a plusieurs.
Il y en existe encore des sectes, OK? Parce que moi, je prétends qu'en 2018, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a tellement d'informations disponibles en tout temps, au bout de nos doigts. Je prétends que ça devient de plus en plus difficile de convaincre le monde. Marc, toi, tu dis l'inverse. Au contraire, il y a tellement d'informations qu'on est en recherche de sens, puis ça devient presque plus facile de convaincre du monde d'embarquer dans des espèces de simagrées comme celle-là. Mm-hmm. Il y en existe encore des sectes comme ça.
Et je suis obligé de dire que Marc a raison, Paul.
OK.
Je sais pas si ça va causer de la chicane chez vous.
Ah, c'est toujours pareil. C'est fait qu'il y a étonné, là.
On se chicane 6 heures par semaine, nous autres, de toute façon.
OK. La dernière secte, Nexium. Qui est Ranière. On va parler de Claire Bronfman. Ce que c'est, ça? C'est un groupe qui dit, on va vous aider, développer votre empowerment, un peu comme des coachs de vie, on va vous améliorer dans la vie.
OK.
Nexium, ils sont allés chercher Claire Bronfman, la fille du magnat des finances de la famille Bronfman, carrément sa fille, qui a mis des millions. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était évidemment le fondateur Ranière. Lui, il venait des systèmes Amway, donc il connaissait le système pyramidal. Et lui, il est allé chercher le Dalai Lama, il a donné 1 million pour donner des conférences, il a mis de l'argent. Et là, il vendait des conférences. Mais quand tu vas à une conférence, tu dis, garde, le Dalai Lama est venu me voir, Madame Bronfman est avec nous autres. Eh bien là, il a bâti une
crédibilité.
Une
là, une histoire.
Et il ne faut pas oublier que lui, il avait développé aussi des esclaves sexuels. Je sais pas si tu te souviens avec la fameuse comédienne, là, son nom m'échappe, et il marquait au fer rouge les femmes qui faisaient partie de son harem.
Ah, mon Dieu Seigneur, ça me...
Avec ses initiales KR pour Kate Ranière, et du côté de la femme, là, elle a joué dans plein de séries, ben elle aussi, elle mettait ses fameuses initiales. Attends un petit peu, ça va me revenir son nom. Mais... Alors, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Alison Mack, ça y est, c'est mes revenus. Bon,
Alison Mack.
Oui, la grande comédienne.
Okay.
Bon, et là, on les marquait au fer rouge. Et bien ça, évidemment, là, les procès ont commencé. Ils ont procédé à l'arrestation de Mme Bronfman. Ils ont procédé à l'arrestation de Ranière, qui s'était sauvée au Mexique. Et là, on est dans le processus judiciaire. Et ça se passe pas loin. Ça se passe aux États-Unis, dans l'État du Vermont. C'est juste à côté... tu sais, quand on traverse la frontière puis on va en direction de New York, c'est là.
C'est quoi la différence aujourd'hui avec tout ce qui est les Mormons aux États-Unis, les témoins de Jéhovah ici? Tu sais, en quelque part, c'est quoi des fois la ligne est mince entre une religion et une secte, non?
Ouais, une secte, là, c'est quand ça commence. Ça veut dire que là, t'as un gourou, t'as quelqu'un qui, par son charisme, parce que Ranière, c'est quelqu'un qui paraît très bien, qui est excessivement éloquent, il va rassembler des disciples. Et là, ils ont besoin d'argent pour fonctionner. Et là, on va se développer, on va vendre des livres, on va faire des systèmes pyramidales, on va faire ci, on va faire ça. Là, on parle vraiment d'un système sectaire par un gourou qui dirige puis qui dit ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Un moment donné, ce gourou-là décède. Et ceux qui continuent le mouvement, ben là, c'est plus pareil. Là, la direction est un petit peu plus diffuse. Ouais. Et là, des fois, pas tout le temps, on va se diriger tranquillement vers une religion. Ce qui est à... Et là, c'est l'épellation populaire. Ça veut dire c'est l'ensemble de la population qui décide, OK, maintenant, c'est une religion. Du côté des Mormons, les gens vont dire, oui, maintenant, c'est une religion, parce qu'il y a des Mormons, il y en a partout. Je sais pas si tu te souviens du groupe de Killers.
The Killers,
Flowers, est un Mormon.
Oh, ils sont présents.
Il y avait même un, un des candidats à la présidence des États-Unis qui était mormon il y a quelques années, qui s'était présenté contre M. Obama. Ah, donc, ça fait partie aux États-Unis, un mormon, ils sont plusieurs millions, ils ont une université, et ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais initialement, c'était vu comme une secte. Ils ont tué leur leader au début, là. Dans les années 1860, quelque chose comme ça. Donc, c'est une évolution, c'est la population. La population va dire, ben la scientologie, on jugeait que c'était une secte, mais le fondateur est mort, le groupe continue. Mais là, il y en a qui commencent à dire, ben c'est une religion. Donc, c'est une question d'épellation populaire. Mais tu as des groupes comme Leftahor, je ne sais pas si tu te souviens de Leftahor, ceux qui martyrisaient les enfants, les Juifs, dirigés par Shlomo Hebran, qui est mort noyé récemment, ben lui, tu sais, la DPJ était après eux autres pour attraper...
Oui, il n'arrêtait pas de changer de place.
Voilà, ils ont fini au Mexique, ils ont fini, ils sont promenés, c'est pas possible. Il était, tout le monde voulait les arrêter parce qu'ils violaient carrément les enfants, là, je veux dire, à coup de, violaient pas dans le sens sexuel, mais c'était à coup de bâton, puis on va les élever, puis les petites filles portaient pratiquement des tchadors. Alors, c'est ça. Donc, tu as des groupes comme ça qui étaient petits, mais Leftahor va peut-être tout simplement disparaître parce qu'il était à peu près 200, puis le leader est mort. Fait que là, on va voir ce qui va se passer, mais il reste toujours des séquelles. Puis, je pense toujours à Heaven's Gate. Heaven's Gate, t'en as 39 qui s'en allaient rejoindre une comète et qui sont suicidés collectivement. Une des caractéristiques...
Rejoindre une comète, oui.
Oui, Hale-Bopp's. Et une des caractéristiques, ils portaient tous des souliers. Puis là, je veux pas faire de publicité parce que c'est la compagnie Nike. Il y avait tous des souliers Nike. On se posait la question, qui a vendu ça? Puis il y avait tous la même paire. Bon, ben ce groupe-là, Heaven's Gate, on va dire, ben ils sont tous morts, ils sont suicidés, c'est fini. Ben leur site Internet existe encore aujourd'hui et il y a quelqu'un qui le garde actif. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils reviendront pas? Est-ce qu'on dit, ben écoute, on vous invite à aller sur la comète Hale-Bopp's? Mais c'est ça, il y a vraiment...
Mais donc, c'est la démonstration qu'il y a des groupes qui transcendent leur gourou. Moi, ça me... Vraiment, M. Ponkin, ça me jette par terre. Ça me rend un peu craintif, pour être honnête.
Ben, c'est que ça fait... Mais souvent, ça va se dissoudre, puis les groupes vont venir se dissoudre. Mais c'est fondé... Comment dire? Le système sectaire est fondé, moi je dis toujours en guillemets, sur une... Ben là, tu vas me dire, toutes les religions sont fondées un petit peu sur une certaine violence vis-à-vis des personnes. C'est carrément ça. Et dans le cas de Moïse Thériault, c'est de la violence physique abominable qui se décrit pas. Mais dans d'autres, dans le Ranière, la même chose, on marque les personnes au fer rouge jusqu'à la fin des temps. C'est que t'as ça. Ouais. Donc, il en reste toujours, là, mais il faut faire attention. Faut pas penser que toutes les personnes qui veulent vous aider, que tous les psychologues, que tous les coachs de vie, c'est des personnes, pas du tout. C'est une infime minorité de personnes qui disent on veut ton bien. Il faut se méfier. Mais une infime minorité. Okay. Donc, il faut toujours le remettre aussi en perspective. Là, parce que tu as des mouvements religieux petits qui sont bien corrects. Il n'y a pas de difficulté. Mais tu en as d'autres, comme les homistes au Japon, la secte Homme, qui avait fait des morts dans le métro de Tokyo. Je me souviens plus combien il y avait eu de morts, mais il y avait des milliers de blessés. Ben, eux, tous les dirigeants ont été pendus cette année. Ben, le groupe continue encore. Il y a encore 1000 adhérents au Japon. Il y en a encore, je ne sais plus combien, en Russie.
C'est hallucinant.
C'est hallucinant, c'est pour ça. Mais il y a une suite. Ça veut dire que le leader, il est pendu, il n'existe plus, mais le groupe continue. Okay.
Merci, M. Prokin, d'avoir été avec nous ce matin. Très éclairant. Pas rassurant, mais très éclairant.
Exact. OK, merci. Okay. Bonne journée.
Merci, au revoir. Alain Prokin est spécialiste des religions et de l'actualité religieuse. Non, mais c'est parce que je me doutais pas à quel point il y avait des groupes comme ça qui survivaient à leur gourou, tu sais. Tu sais, je veux dire, la prémisse de tout ça, c'est Moïse Thériault. Quand Moïse Thériault est mort, il reste même après, quand même quand il était en prison, là, passé, à partir des années 90, il n'y a plus grand-chose de...
Non.
Il reste des séquelles, mais je veux dire, il reste pas nécessairement...
Pas l'esprit, si tu veux.
C'est ça, voilà. Pas l'organisation, pas les espèces de valeurs là, nauséabondes.
Ça se transmet pas, mettons.
C'est ça.
Mais des fois, oui.